Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà en partance pour l'Afrique, dans tous ses états. Et dans cet objectif-là, de vous faire voyager, j'ai le grand plaisir de vous recevoir une charmante jeune fille qui a un prénom vraiment qu'on lui envie, surtout quand on n'aime pas son prénom, c'est pas mon cas, mais bon. Il s'agit de Cerise Biandé, Cerise Biandé, qui est venue nous rendre visite, qui est à Montpellier. Elle va nous expliquer pourquoi. Et Cerise Biandé est du pays de Centrafrique. Bonjour Cerise.
Bonjour.
Comment tu vas?
Je vais, merci, et vous?
Bonne arrivée, comme on dit au Burkina. Donc, dans ces ondes-là. Et donc, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu à nous. Voilà, d'où tu viens, etc. Ouais. etc. Voilà.
D'accord. Je m'appelle Cerise Biandé, comme vous l'avez déjà dit. Je viens de la République centrafricaine. Je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans. Par regroupement familial. Mmh. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans et demi que je suis en France. Mmh. Et voilà.
Donc tu as ?
J'ai 25 ans.
25 ans, si j'ai bien compris, oui. D'accord, donc c'était un regroupement familial.
C'est ça.
Voilà, c'est papa ou maman qui était ici ou
C'était papa qui était ici.
Qui était ici, oui. D'accord. Et il vous a tous rapatriés
Oui, il nous a fait, pas tous, parce que malheureusement, parce que j'ai ma grande sœur qui est restée là-bas. Mmh. L'une de mes grandes sœurs qui est restée là-bas, parce qu'à l'époque des démarches, elle était déjà majeure. Donc, elle ne pouvait pas faire partie du
regroupement familial.
Exactement. Ouais. Et à la suite de notre arrivée, ils ont entamé les démarches pour qu'elle puisse rentrer aussi. Mais malheureusement, elle a eu deux refus de visa.
Ah bon?
Exactement.
Ah d'accord, ils n'ont jamais retenté alors, non?
Non, parce que derrière, elle a fait sa vie là-bas. Donc,
oui, c'est sûr, voilà. Que tant mieux pour elle, hein,
c'est ça.
Qu'elle ait quand même réussi. Bon, donc, Cerise, comme vous l'avez compris, est une jeune femme de 25 ans, charmante, qui va, je pense, nous expliquer un petit peu, justement, bon, parce que jusqu'à l'âge de 15 ans, donc ça s'est passé comment avant? Parce que tu nous as dit déjà que c'était un regroupement familial avec ton papa. Oui. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, tu as fait quoi là-bas?
Ah, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai été une petite fille, ensuite une ado. Ouais. J'allais à l'école. Ma mère, elle vivait un petit peu une vie de mère célibataire, mm-hmm. on va dire. Parce que mon père, il était ici. Ouais. En fait, c'est par la force des choses, parce que on est dans un pays où qui est régulièrement en proie à tout ce qui est coup d'État. Mmh. Et mon père, il était de l'ethnie d'un gouvernement qui était là et qui a été renversé par la suite. Donc, on a cette histoire de tribalisme qui est toujours là, en fait. Et il a eu un petit souci avec un monsieur et qui, malheureusement, on avait après sa vie, qui voulait sa tête à tout prix. Donc, mon père, pour sauver sa vie, donc, justement, il a dû venir en France pour se réfugier ici, justement, pour trouver exil. Et donc, tout ce temps, on n'a pas vu mon papa, parce qu'il n'est pas reparti. On a gardé les liens. En plus, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, où on peut faire des FaceTime ou des choses comme ça. Non, ça n'existait pas à l'époque.
Oui, c'est sûr.
Donc, c'était des appels téléphoniques, mais qui n'étaient pas réguliers non plus, parce qu'il fallait le temps qu'il s'installe, etc. Et donc, pendant tout ce temps, ma mère, elle a vécu une vie de mère seule. Étant donné qu'elle était infirmière diplômée d'État et avec quatre enfants à charge, donc c'était pas facile. Ma mère, on la voyait très peu, parce qu'elle acceptait des missions, elle partait des fois en province pendant 3-4 mois, on la voyait très peu. Donc on a grandi comme ça, dans cette atmosphère et tout, voyant notre mère qui se battait, parce que justement on était scolarisés dans une école privée. Et donc, avec mes frères et sœurs, on vivait cette vie-là. Et jusqu'au jour où on arrive en France, à l'âge de 15 ans, c'était la première fois que je voyais mon papa. Ça m'a fait drôle, oui. Ouais. Parce que jusqu'ici, j'avais que des photos de lui étant jeune avant de partir. Et quand j'arrive la première fois, c'était assez troublant quand même. Parce que j'étais contente, parce que ça a été un rêve, en fait. J'ai toujours rêvé de rencontrer mon papa, de voir à quoi il ressemblait, parce que de mon côté à moi, j'avais pas vécu cette vie de famille avec papa à côté, parce que je voyais les autres avec leur père, et je me posais la question de savoir, en fait, qu'est-ce que ça pouvait faire d'avoir un papa à côté de soi et tout ça. Et je me suis dit, je suis contente. Après, j'étais un petit peu, j'étais un petit peu partagée, parce que je savais que ma maman, elle allait repartir.
Ah oui.
Oui, et ça, c'était très, très difficile pour moi parce que, toute ma vie, j'ai vécu avec maman. Maman, même si elle travaillait beaucoup, et c'est des choses que...
C'était le référent.
Et maman, c'était le repère, c'était le papa, c'était la maman. Et le fait de me dire, ah mais oui, je vais être en France et ma mère, elle va être de l'autre côté. Comment je vais faire pour vivre? C'est comme si, limite, c'était mon oxygène qui devait partir. Mais en même temps, ma mère, elle nous a fait asseoir, elle nous a expliqué, en fait, que bah, ma sœur, elle était restée là-bas. Et comme elle était là-bas, ben, il fallait qu'elle reparte pour essayer de la faire venir elle aussi. À ce moment-là, si toute la famille est réunie, elle au moins, elle aura la paix parce que notre pays, c'est un pays qui n'est pas très stable. Mmh. On vit au jour le jour. Des fois, on est là, on a des échos d'un potentiel coup d'État qui peut arriver à n'importe quel moment. C'était assez compliqué. Donc, ma mère, elle s'est dit, ma fille, je ne peux pas la laisser toute seule. Et du coup, comme elle nous a fait comprendre ça, on s'était dit, ah oui, c'est pour la sécurité et le bien-être de notre sœur. Nous ici, au moins, on est dans un pays qui est quand même sécurisé et on a papa à côté. Et ma mère, elle a dû repartir. Mais ça a été très, très difficile, son départ. Mais aujourd'hui, on s'est habitué à ça et elle revient quand elle peut, au moins une fois par an.
D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, tes parents n'ont pas eu la chance, puisque ils ont été contraints par des événements qui sont indépendants de leur volonté, de chacun. Un coup c'est maman qui vous a élevé, puis un coup c'est papa qui vous a pris en charge le temps que votre mère revienne au pays. Enfin, c'est vrai que ça n'a pas été simple.
Exactement. Quoi.
Voilà. Et donc, justement, tu faisais allusion tout à l'heure aux histoires tribales et tout, et c'est vrai que moi, je connais surtout l'Afrique de l'Ouest, mais bon. Je connais aussi des Centrafricains, pas que toi, c'est vrai que le poids ethnique sur le continent est encore très fort.
C'est ça.
Et que ça influe. Alors, ça influe beaucoup aussi sur la politique. La preuve, tu viens de l'expliquer, que quand même ton père à un moment était dans une opposition qui a fait que il était menacé de mort, etc. Alors, je suis en train de me dire en même temps que je te dis ça. Parce que c'est la particularité. Je suis en train de me dire que nous, c'est d'autres raisons qui font qu'à un moment, il y a des collusions, entre les gens et pas pour des raisons souvent plus économiques ou idéologiques, effectivement, que ethniques. Mais bon, et c'est vrai que ça fait beaucoup de souffrance, quoi.
C'est ça.
Fait beaucoup de souffrance. Et quand ton père est parti du pays, tu avais quel âge, toi, quand il a dû fuir?
Oh, je devais avoir 2 ans. Et déjà, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que, étant petite, on va dire, entre guillemets, que j'ai fait de la prison. parce que mon père, il a été arrêté.
Ah, d'accord.
Oui. Et ma mère, elle a compris, en fait, parce que chez nous, c'est quelque chose qui, on va dire, entre guillemets, qui est normal un petit peu. Quelqu'un qui disparaît et après on retrouve mort ou jamais de traces, ça, c'est normal. Et ma mère, quand elle a compris qu'on avait arrêté son mari, elle s'était dit, si je le laisse tout seul, je ne le reverrai plus. Donc, à ce moment-là, comme j'étais encore toute petite, je devais avoir, je crois, 1 an, quelque chose comme ça, 1 an quand ça s'est passé. Et ma mère, elle m'allaitait encore. Donc, elle s'est dit, si je laisse mon mari partir tout seul, ils vont en finir avec lui. Et elle s'est mise devant eux, elle leur a dit clairement, si vous voulez arrêter mon mari, arrêtez lui, moi et notre enfant. Et si vous voulez nous tuer, tuez-nous tous les trois. Parce que mon mari partira pas sans moi. Et comme il y avait ma mère, ça les empêchait justement de le toucher. Parce que justement, en fait, ils l'ont arrêté avec des motifs, disons, entre guillemets, tiré un petit peu par les cheveux. Donc, il fallait, le condamner, etc., tout ça. Donc, ma mère, elle a compris tout de suite. Et donc, du coup, j'ai passé quelques jours avec mon père, avec mes parents en prison.
En prison.
C'est ça.
D'accord. Dis donc, quelle expérience, quelle...
C'est ça.
C'est vraiment... Et alors, tu as quelle place dans la famille? Tu es la combienième, toi? L'aînée, donc la sœur aînée, qui n'avait pas pu venir, oui.
Bon, c'est pas la sœur aînée exactement, c'est la deuxième.
C'est la deuxième,
oui,
d'accord.
Parce que l'aînée au Canada, la seconde est en Centrafrique.
D'accord.
Et dans la fratrie, je suis la quatrième. Après, il faut savoir que mon père, il a eu 2 enfants ici.
Ah d'accord, après oui donc il a un peu refait sa vie.
C'est ça.
D'accord, ça veut dire que vraiment, c'est une histoire vraiment très, très compliquée quand même.
Exactement.
Très compliquée, avec des parents courageux, je dirais que bon.
C'est ça.
Parce que, bon, maman, n'en parlons même pas, mais on sait que les femmes sont fortes, n'est-ce pas? Nous sommes des femmes, donc nous le disons. Mais en même temps, un père aussi qui a manqué payer de sa vie ses convictions, etc., etc., quoi.
Oui. Après, c'était pas une question de conviction, parce que c'était juste un petit litige, en fait. Oui. Parce que vous savez, chez nous, quand il y a une ethnie qui est renversée, en fait, les autres, ils sont comme asservis.
Oui, tout à fait.
En fait, c'est-à-dire que moi, je dis quelque chose, tu te tais. Mmh. En fait, c'était parti juste d'un petit litige. De... Mmh. En fait, c'est juste le monsieur qui en avait après lui voulait juste prouver qu'il avait le pouvoir, en fait, que bah, c'est moi le chef. Ouais, c'était juste une question d'ego. Mmh. C'est bête, mais malheureusement, c'est ce qui arrive. Et on voit des personnes qui meurent tous les jours comme ça. Mmh. Tu sais qui je suis. En fait, c'est ça le terme qu'ils utilisent. Tu sais qui je suis. Ah oui, c'est comme ça, en fait.
Voilà. Donc, on va dire quand même que cette maman-là, elle était, outre son intuition, elle a quand même... Elle a su faire les bonnes... Elle a eu la bonne stratégie pour que votre père reste en vie. Et, voilà. Et moi, ce que je voulais savoir, est-ce que quand il est venu ici, s'il a eu l'asile politique ou pas?
Non, pas à ma connaissance. Non. Il n'a pas eu d'asile politique.
Non, il a forcément pu quand même venir.
Non, parce que ce n'était pas un homme politique. C'était mon père, il était comptable dans une société japonaise.
Oui, mais il y a quand même un droit d'asile, si tu veux, pour des régions. Bon, je sais que bon, je ne dirais pas le pays, mais j'ai aidé un jeune homme qui était, lui, il est journaliste et il était dans la télévision de son pays. Et à un moment, il a osé faire un reportage qu'il ne fallait pas. Okay. Il a été emprisonné. Son père l'a aidé à fuir. Et il a fini par obtenir le séjour ici, mais comme d'asile, quoi. Voilà, d'asile. C'est pour ça que je demandais ça. Mais peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que les lois étaient moins compliquées que maintenant.
Oui,
aussi,
je pense. Mmh. Et ça, par contre, je n'ai jamais posé la question à ma mère pour savoir si c'était, s'il avait fait une demande d'asile ou pas. Mmh. Mais à ma connaissance, non.
Non, non. De toute façon, l'important, c'est qu'il avait le droit et qu'il a pu faire sa vie ici quand même, s'établir ici. D'accord. Et donc, ça t'a fait quoi de venir d'arriver ici à l'âge de 15 ans?
Oh, ça m'a fait vraiment bizarre, parce qu'il faut savoir justement, en fait, que quand je suis arrivée, je venais de perdre une année scolaire parce que j'étais en troisième là-bas. Et je venais de perdre une année scolaire parce qu'il y avait eu un coup d'État.
Ah oui, encore.
Et oui, parce qu'en fait, entre 2013 jusqu'à, je crois, 2018, il me semble, si ma mémoire est bonne, le pays n'était pas stable. Mmh. Et donc, pendant tout ce temps, avant mon arrivée ici, ça a été très compliqué parce qu'on s'est retrouvés dans une guerre sans précédent qui opposait cette fois chrétiens et musulmans. Mmh. Sachant que c'est un pays qui était mixte jusqu'ici, il y avait des mélanges, oui, etc. Ça, et tout ça. Et donc, on s'est retrouvés en plein milieu. Et moi, j'étais dans un quartier, en fait, qui était majoritairement musulman. Mmh. Enfin, mon collège se trouvait là. Et donc, ça crée vraiment une division dans le pays. Et ce qui faisait que les musulmans, à un moment donné, ne pouvaient pas rentrer dans des quartiers chrétiens. Mmh. Et inversement, ça a été tout un bazar. Et au milieu de tout ça, bah, nous, enfants, étudiants, etc., on n'allait plus forcément à l'école. Et là où se trouvait mon collège, c'était très, très dangereux parce que c'était un quartier majoritairement musulman. Donc, pour ma sécurité, ma mère, elle a dû se dire, bah, stop, quoi. Mmh. On est en train de faire les démarches pour que vous puissiez partir. Mmh. Donc, ça ne sert à rien que tu viennes à l'école parce que si vous venez une fois sur 40 000 à l'école, c'est comme si on essayait de vous arracher votre intelligence. Ça ne sert à rien, reste à la maison. Et donc, j'ai perdu une année comme ça parce qu'il y a eu l'entrée, parce qu'il y a une première milice qui était rentrée. Milice qui dit Séléka. Séléka qui signifie union chez nous. Mmh. Et les Séléka, on va dire que ce sont eux qui étaient arrivés, mais au nom, entre guillemets, des musulmans, en fait. Mmh. Malheureusement, la politique, c'est comme ça. Il faut mettre un nom sur quelque chose, mais on sait que ce n'est pas ça. Et à la suite de ça, bah, les chrétiens, ils se sont dit, ah ben bah, nous aussi, ils ont commis des exactions de notre côté. Qu'est-ce qu'on fait? On crée une coalition, nous aussi. Et là, c'est les Balaka. Et Balaka qui signifie machette. Donc, ça veut dire que c'est la revanche, en fait. On s'est retrouvés entre 2010. Et finalement, on a dû, quand on est parti du pays, donc j'ai arrêté d'aller en cours. Mmh. Et ils sont rentrés le 5 décembre 2013. Mmh. À partir de là, je ne suis pas allée à l'école. J'arrive en France après une année scolaire de perdu et j'ai demandé à ce qu'on me fasse redoubler. Et là, je reprends l'année de troisième. Ça fait bizarre quand on arrive dans un nouveau pays. On est un peu déstabilisé. On ne sait pas trop. Et surtout que ce n'est pas le même fonctionnement, ce n'est pas le même quotidien. Et déjà, la première chose qui m'a frappée, pour être honnête, c'était le calme. C'était trop calme déjà que j'habitais dans un petit village, le cours notarial, juste à côté de Montpellier. Mmh. Le calme me faisait trop bizarre. Je n'étais pas habituée à ça parce que en Afrique, on vit tous dehors. Il y a du bruit tout le temps. On entend des gens, etc.
Et encore, nous sommes dans le sud ici, parce que c'est dans le nord.
Et en plus, en plus, il y a la convivialité. On a tout le temps de la famille, etc. Et là, d'un coup, on arrive en France. Se retrouver déjà à l'intérieur, ça, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Après, chez nous, on était chez nous, on était à la maison entre nous et tout ça. Ça se passait bien, mais... rester dans une maison enfermée, ça, c'est, ça change.
Oui, c'est sûr que ça,
ça change. Le village qui était tout calme, les fêtes qui ne se passaient pas comme chez nous, parce que pendant les fêtes, tout le monde était affairé, etc. Mais ici, ce n'est pas le cas. On passe des fêtes enfermées. Donc, ça faisait un décalage. Et encore plus au collège, il fallait s'adapter au rythme. Les matières n'étaient pas forcément... Enfin, on a quasiment les mêmes matières, mais il y a des matières en plus que je ne connaissais pas. Par exemple, la technologie, c'était quelque chose que je ne faisais pas de l'autre côté. Donc, finalement, c'est, ça a mis du temps un peu. Ça a mis du temps, tout ça, comprendre le temps de comprendre le fonctionnement, etc.
Mais c'est sûr qu'il faut du temps.
Il faut du temps.
Il faut du temps. Alors, on va s'arrêter pour une pause musicale. Mais ce que je voulais dire, la remarque que je voulais te faire, c'est que finalement, moi qui suis, bon, enfin, qui est à voir, qui suis très intéressée par les guerres de religion chez nous aussi, puisque quand même le Sud a toujours été un endroit où on a accueilli les différences. Alors, c'est pas les ethnies chez nous, mais c'est les religions aussi. Que ce soit les Espagnols avec l'Inquisition, enfin les Juifs, les Musulmans et tout ça, et après les catholiques, les protestants, je me dis que finalement, toutes ces histoires de prétextes religieux, elles sont universelles, quoi.
Exactement.
L'homme est universel. On peut changer le continent, mais on retrouve les mêmes problématiques avec des instincts plutôt pas toujours très bons. Alors, tu vas nous faire écouter une chanson, une musique que tu as choisie ?
Exactement.
C'est quoi ?
C'est la musique d'Ismaïlo qui parle d'Afrique. En fait, c'est un son que j'aime particulièrement.
Ça s'appelle
Africa.
Ah, j'adore cette chanson. Africa, donc vous écoutez Africa, vous saurez où vous êtes quand vous écoutez ça. Et on vous retrouve tout à l'heure.
D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon laïnyan. Manejamu Africa, moi sonyona tangé. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères.
Et nous revoilà dans le studio sur cette belle musique qui nous transporte avec la très belle voix d'Ismaël Lo et qui nous transporte en Afrique. Mais vous, ne vous inquiétez pas, vous la retrouverez à la fin. Et je suis toujours en compagnie de Cerise Biendé qui nous raconte un petit peu sa vie, qui nous a fait participer vraiment à toutes ses émotions d'enfant, à une vie pas conforme, hein, pas standard, puisque avec un père menacé qui a dû fuir, etc. Elvira, une maman très courageuse et tout ça. Et voilà, et puis elle vient de nous faire partager un petit peu ses états d'âme quand elle est arrivée à l'adolescence en France. Combien on se sent un peu déstabilisé au départ. Voilà, donc Cerise, tu continues ton séjour là. Donc tu reprends les études là.
Oui.
Oui. Et oui. Alors, tu étais dans un collège.
J'étais dans le collège Marie Curie à Pignan.
À Pignan.
Et après le collège, je suis arrivée à Montpellier parce qu'en fait c'était le lycée qui était affilié à mon collège, c'était le lycée Jules Guesde ici à Montpellier.
Ouais.
Et j'ai fait de la seconde en terminale à Jules Guesde.
Jules Guesde, d'accord. Ça. Ok. Et ça s'est bien passé?
Ça s'est bien passé, oui. Parce qu'après un an, on s'est adapté, ça commence
oui,
à
c'est
aller
ça. Tout ça. Surtout quand on est jeune, on s'adapte plus facilement. Donc, tu t'es adapté et tu as pu finir ta scolarité
oui.
Malgré ce redoublement obligatoire, je dirais, qui n'était pas choisi. Hein,
oui.
Puisque par des circonstances extérieures. Et c'est vrai que, pour suivre beaucoup l'actualité africaine et particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, je dois reconnaître que les coups d'État et les mouvements font souvent que vraiment les élèves sont obligés de... Voilà, après, on leur rattrape leur année comme on peut, mais que ça arrive souvent des interruptions comme ça, scolaires, indépendantes de la volonté de chacun. Quoi.
Exactement.
Voilà. Alors donc, tu as continué, tu as fait le bac?
Oui. J'ai fait une seconde générale, ensuite je me suis orientée vers une première technologique, STMG, et une terminale STMG aussi, mercatique, marketing. Et après, j'ai opté aussi pour un BTS assurance. J'ai fait le BTS, il y a eu le Covid qui est arrivé au milieu aussi, et je l'ai validé mon BTS. Mais pendant ces deux années de BTS, je commençais à me poser des questions en fait sur la suite de mon parcours parce que je me voyais, j'avais envie de faire avant d'arriver sur mon BTS, j'avais envie de faire de l'anxiété. Je me dis j'irai jusqu'au doctorat, etc. Mais sauf que il y avait quelque chose qui me manquait. Je savais pas quoi, mais il me manquait quelque chose en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit bon, ok, je vais aller quand même faire le BTS. Je vais avoir quand même le diplôme parce qu'on ne sait jamais. J'ai obtenu le diplôme et après ça, j'ai fait une année de césure. Une année de césure pour vraiment réfléchir à ce que j'allais faire. Je me dis, c'est l'année où je me permets tout. Je vais tester à tout pour voir ce qui me correspond vraiment. Et de fil en aiguille, j'ai testé un petit peu la restauration rapide à Burger King. J'ai fait un mois. Ensuite, je suis partie au CRFP. Je pense que ça a duré 3 semaines, quelque chose comme ça. Et après, je me suis retrouvée à Pôle Emploi Cévennes à l'époque, Pôle Emploi actuel France Travail. Et j'ai commencé un service civique à Celle-Neuve. Et ça m'a plu. Ça m'a plu et c'était incroyable parce que j'ai fait 7 mois là-bas et j'ai fait mon service civique, ça se passait super bien, on rencontrait du monde, on avait l'impression de servir à quelque chose parce que pour la première fois, parce que c'est ce que j'avais l'impression que je recherchais, donc les gens arrivaient parce qu'en fait on est dans un quartier aussi, dans l'un des quartiers de Montpellier où il y avait une grande partie de la population quand même qui était en rupture technologique. Option numérique, pardon. Et donc, on accompagnait les personnes parce qu'avant de voir les conseillers, les gens venaient nous voir en premier. On était à l'accueil, on essayait de les aider au mieux sur leur espace, scanner des documents, etc. Et donc, petit à petit, j'ai essayé de chercher ma voie. J'ai essayé de postuler pour commencer une formation pour être conseillère en insertion professionnelle parce que je me dis certainement c'est ce qu'il me fallait. Et malheureusement, ça n'a pas abouti parce que j'ai pas eu de retour, etc. J'ai commencé à perdre patience. Et après, j'ai entendu parler de l'animation. Et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas? Donc, dans un premier temps, je suis partie sur un séjour adapté avec des personnes en situation de handicap. Je suis partie 3 semaines avec l'UFCV. Et quand je suis revenue, je me suis dit, ça, c'est ce qu'il me faut. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler l'été est passé parce que j'ai travaillé pendant l'été. Et quand l'été est passé, je me suis dit, il fallait que je passe. Parce que à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai envie de me sentir légitime. Donc, j'ai décidé de faire un CPGEPS, qui est un certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports. Et donc, j'ai passé mon CPGEPS pour être justement professionnelle, travailler avec tout type de public en tant qu'animatrice. Et je l'ai fait en contrat d'apprentissage, j'ai été sur les écoles, j'ai été aussi en séjour avec des ados. Donc, après l'obtention de mon CPGEPS, j'ai travaillé un petit peu. En tant qu'animatrice, j'ai travaillé avec Vacances Évasion, j'ai travaillé avec le MUC Vacances à l'époque, et maintenant MUC tout court. Ensuite, j'ai travaillé avec la mairie de Montpellier, donc j'ai été vacataire pendant à peu près 9-10 mois. Et après ça, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire directrice d'accueil de loisirs à BPJEPS. Donc en 2023, j'ai entamé les démarches et tout ça. Donc en novembre 2023, je commence mon BPJEPS. Et je l'ai terminé là, en décembre, le 31. Mon contrat d'apprentissage est terminé le 31 décembre 2024. Malheureusement, je ne l'ai pas validé dans la totalité, je l'ai validé de manière partielle. Et là, je suis en train de voir si je repasse ou pas. Mais en ce moment, il y a une réforme qui est en train d'arriver qui va peut-être modifier le diplôme. Donc, est-ce qu'il faut que je reparte à zéro complètement ou est-ce qu'il faut que je reprenne que la partie que je n'ai pas passée? Et je suis en train de voir aussi pour passer en VAE. Voilà.
D'accord. Et donc, ce diplôme-là te donnerait accès à quoi? Tu pourrais faire quoi avec ça?
Être directrice d'accueil de loisirs, voilà, c'est ça, ouais. Ou être responsable des écoles primaires, en fait, qu'on appelle REP.
Oui. D'accord.
Voilà.
Des loisirs, alors tout ce qui est parascolaire. Alors,
oui, voilà, tout ce qui est animation. Oui,
tout ce qui est animation.
C'est ça.
Ouais, d'accord. Mais dis donc, quel parcours et que d'interrogations. Mais justement, c'est peut-être pour ça que c'est peut-être comme ça qu'on trouve vraiment son vrai chemin, hein, non, tu crois pas?
Exactement.
quand on s'ouvre plein de pistes, etc.
Exactement.
Alors, tout à l'heure, tu parlais donc du fait que tu étais service civique.
C'est ça.
Et il se trouve que la semaine dernière, je recevais 3 petites services civiques. Hein. Oh. Voilà, si tu avais été là, ça aurait été complet d'ailleurs. Qui sont à la Maison des Territoires du Monde actuellement et qui font un boulot et que pareil, qui sont emballés parce que ça les ouvre aussi sur plein de secteurs, etc. Et puis c'est très utile en plus. Et je pense que pour un jeune qui se sent concerné, qui se sent quand même engagé, se sentir utile, c'est énorme, quoi.
C'est ça. Exactement.
On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi existe, et puis en même temps, on s'ouvre des pistes de réflexion, quoi.
C'est ça. Exactement.
Voilà, donc là, tu es en pleine... voilà. Et donc, tes loisirs, qu'est-ce que tu fais à côté de ça? Parce que là, on a parlé de tout le cheminement scolaire.
Oui. Alors, mes loisirs, ça dépend, parce que... On va dire que je suis une personne très versatile aussi. J'aime bien changer d'environnement tout le temps.
Oui, mais versatile ou simplement ouverte un peu à beaucoup.
Ouverte, on va dire. J'aime bien faire la cuisine. J'aime bien cuisiner, etc. Tester de nouvelles recettes. J'aime bien lire de temps en temps. Écouter de la musique, danser, ça c'est des choses que j'aime bien.
Il y a beaucoup d'occasions ici quand même. Hein.
Exactement.
Et pas qu'avec les Africains d'ailleurs.
C'est sûr.
D'accord. Est-ce que ça t'arrive de retourner dans ton pays d'origine?
Jusqu'ici, pas encore.
Pas encore.
Mais je compte y aller.
D'accord.
Je compte y aller. Justement, en plus avec le projet que j'ai, oui, je compte y retourner.
D'accord. Donc, parce que là, tu n'y es pas retourné depuis?
Non.
Ah oui.
Non.
Ah, d'accord. Pas du tout, ça te manque pas trop, t'as pas...
Ça me manque, parce que surtout que ma sœur, je l'ai pas vue depuis un certain temps quand même,
et
que derrière j'ai eu des nièces et des neveux, donc j'ai envie d'aller quand même les rencontrer, voir ma sœur au moins, parce que notre mère, elle arrive ici, donc ce qui comble quelque part un manque, mais j'ai envie de voir ma sœur aussi.
Oui, c'est bien d'être de nouveau, de se retrouver dans la réalité dans laquelle on est né, on a grandi.
Exactement.
Quoi. Exactement, donc on espère que tu vas pouvoir y aller. Alors, tu parlais de ton projet, est-ce qu'avant qu'on se quitte, tu peux nous dire 2 mots de ce projet-là? Mais tu reviendras nous en parler, ne t'inquiète pas.
Oui, exactement. Alors, mon projet, c'est de venir en aide aux enfants de la rue en République centrafricaine, parce qu'avec les multiples guerres, coups d'État qu'il y a eu, ça n'a pas laissé le pays sans impact quand même. Ouais. Et même avant cette guerre, en fait, il y a eu déjà des enfants qui existaient. Mmh. Par exemple, des enfants qui, comme dans mon cas, les parents sont séparés, qui sont orphelins tout court, qui sont élevés par des parents, par de la famille, mais qui malheureusement sont maltraités, qui se retrouvent à la rue et qui font face à tellement de choses. Donc, c'est à ces enfants-là que j'ai envie de venir en aide, en fait.
Et ça t'est venu comment, cette idée de venir en aide à des enfants?
Je ne sais pas, je pense qu'un jour j'étais tombée sur une vidéo qui montrait un enfant qui était abandonné, qui était là, et qu'il y avait des gens qui passaient comme si cet enfant n'existait pas. Mmh. Et ça m'a révoltée, en fait. C'est comme si j'ai eu un flashback, parce que quand j'étais petite, on avait une radio, on a une radio nationale, qui est, enfin internationale, qui s'appelle Radio Dekeluka, mmh. et qui, chaque vendredi, faisait passer une émission, en fait, sur les enfants de la rue, et ils expliquaient, en fait, leur histoire, comment ils se sont retrouvés là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mmh. Et j'ai eu comme une sorte de flashback, et dans ma tête, je me suis dit, mais... Les enfants, ils racontaient leur histoire à chaque fois. Et associé à cette vidéo, ça a créé comme une sorte de révolte en moi. Je me dis, mais c'est pas possible. Mmh. Et quand je vois qu'il y a des ONG qui existent, etc., et qui viennent juste en aide à ces enfants, c'est-à-dire que, en fait, sur la pyramide de Maslow, on s'occupe juste de la partie nourrir, vêtir. Mmh. Après, reconstruction de l'être humain derrière, on ne voit pas trop. Mmh. On ne voit pas trop. Et ça, je me dis, mais il manque quelque chose. Aider, ok, c'est bien, mais c'est des personnes à part entière. Mmh. Ils ont fait face à plein de choses. C'est des personnes qui ont fait face à des préjugés dans la société parce que comme ils sont dans la rue, ceux qui ont grandi carrément dans la rue, ils ont commencé à se livrer à tout ce qui est drogue, etc. Mmh. Et ben les gens, ils ont mis des points sur leur vie en disant que bah, vu que tu fumes, vu que tu te drogues, toi, tu n'as pas d'avenir puisque tu n'es pas allé loin dans les études, tu n'as pas d'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte parce que c'est une réalité, c'est un quotidien. Et même quand j'étais là-bas, je voyais comment les gens les traitaient. On les méprisait. Ils sont plus que des chiens. Donc, c'est quelque chose que je trouve pas normal. Mmh. Et donc, aujourd'hui, je compte...
Donc, ton expérience du pays et ton expérience passée de plus jeune te sert maintenant dans ta réflexion et t'a dirigé vers la réalisation de cette association.
Exactement.
Que tu as créée ou que tu vas créer ?
Que j'ai déjà créé.
Que tu as déjà créé.
Oui.
Ça s'appelle comment ? On peut vous joindre où ? Dis-nous un peu les coordonnées.
Alors, ça s'appelle Brave.
Brave.
Qui signifie bâtir, rêver, aimer, vivre et exister.
C'est beau.
Merci. Ce sont toutes ces choses qui sont, entre guillemets, interdites à ces enfants.
D'accord. Il y a un site internet, il y a quelque chose, non ?
On a un compte Instagram qui est Brave34000.
Voilà, Brave 34 000, si vous voulez aller vous renseigner un petit peu. De toute façon, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, nous recevrons Cerise sans plus tarder, qui nous parlera alors plus spécifiquement justement de son entreprise. Mais c'était intéressant déjà d'entendre un peu toute cette histoire originale. Hein. C'est ce qui est passionnant dans cette émission, c'est vraiment voir les trajectoires des gens et savoir comment à un moment on se retrouve dans ce studio, voilà, en provenance d'endroits tellement différents. Donc, avant qu'on finisse d'écouter Africa de Ismaël Lo que tu nous as fait écouter tout à l'heure. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous dire ? Tu aurais quelque chose que tu voudrais nous dire ?
Qu'est-ce que je pourrais...
Un message à nous transmettre, je ne sais pas, une idée. Qu'est-ce qui te vient à l'idée ?
L'amour, l'espoir. Mmh. Parce que c'est ce dont on a besoin, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont froids. Mmh. Les cœurs sont froids et qu'il faut surtout regarder autour de soi. Parce qu'il y a des gens qui souffrent forcément et qui cachent leur souffrance derrière un sourire. Et ça, il faut faire attention parce que des fois, ce qui me frappe, c'est qu'il y a des gens qui nous sourient et le lendemain matin, on apprend qu'ils sont morts, qu'ils ne sont plus là. Alors que ces personnes font face à des combats, alors qu'il suffisait juste de prêter attention, de juste aller au-delà d'un « comment ça va ?» Et peut-être que ça pourrait changer quelque chose.
Bon, j'espère que vous entendez le message de Cerise. Je vous dis au revoir, chers auditeurs. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Cerise, d'être venue nous avoir fait partager ton amour de l'autre, parce qu'on l'a senti tout au long. Et à bientôt. Et on vous laisse avec Ismaël Lo, Africa.
Merci à vous. Africa.
onon mi be Africa umade umade li golen lady man ngaken khasi dagal yo Allah su en ini musibaji yo Allah adu jam tor wanda yo Allah adu jam to Burundi yo Allah adu